êtes sur le point de suivre Lève-toi et brille, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, sise à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'Amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny, diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourreussir.org ou nous appeler au 229 61 44 44 44. Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h. Nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu, la meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée, ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun de nous. Nous ne devons jamais nous fatiguer de louer le Seigneur. C'est très très important à tous les égards. Pour nous comme pour les autres. La louange est ce sur quoi le Seigneur trône, siège. Si l'on vous dit qu'un roi siège sur un fauteuil, il ne sera jamais là si son fauteuil n'est pas là. Si vous savez qu'un roi ne s'assoit que sur son trône et que vous l'invitez à une manifestation, vous n'avez pas prévu son trône, quand il vient, il repartira. Dieu siège dans et sur la louange. La louange honore et glorifie Dieu. Ça ne le glorifie pas dans le sens d'un mensonge flatteur. Ça le glorifie parce qu'il est réellement la gloire. La louange a aussi le pouvoir de vous rendre vous-même heureux. Vous devez savoir que notre humeur ne dépend pas de ce qui se passe ou de ce qui nous arrive. Notre humeur est déterminée par ce que nous regardons, ce sur quoi nous nous concentrons. Si dans l'abondance de bonheur, de prospérité, de richesse, ton esprit te concentre sur quelque chose de triste, tu seras triste. Si le jour de son mariage avec un milliardaire, président de la République, beau, gentil, amoureux, merveilleux, une jeune fille commence à imaginer le jour où il y a 20 ans, elle a été violée, ou le jour de l'enterrement de sa maman qui n'est plus là, elle va pleurer, elle va être triste. Alors que ce jour-là, il n'y a aucune raison d'être triste. C'est pour ça que le prophète nous dit que quand il repense à la méchanceté des hommes, son esprit est abattu. Vous n'êtes pas triste, vous n'êtes pas malheureux, vous n'êtes pas déprimé, vous n'êtes pas abattu parce que vous avez trop de problèmes. Vous l'êtes parce que vous faites le zoom dans votre esprit sur vos problèmes. C'est pour ça qu'il y a des gens beaucoup plus heureux que toi, mais qui sont beaucoup plus déprimés que toi. Quand on va dans les hôpitaux, les gens qui sont tout le temps en train de boire les médicaments pour le stress, pour le manque de sommeil, pour les palpitations, c'est les gens qui sont les plus riches et pourtant ils sont les plus malheureux.
Mais
il y a des personnes qui n'ont rien. Tu vas dans leur maison, c'est le dénuement total. Ils n'ont même pas une natte. Mais elles sont dans une joie. Quand elles te reçoivent, tu les envies même parce qu'il y a quelque chose là que tu n'as pas. Elles ont une joie de vivre. Elles ont une paix. C'est ça la faveur de Dieu. Donc, notre bonheur dépend de notre capacité à nous concentrer sur la vérité, sur ce qui va bien, sur ce qui est glorieux, pas notre capacité à nous concentrer sur nos problèmes. Quand tu concentres tes regards sur ce qui est beau, sur ce qui est bien, sur ce qui manifeste la vie de Dieu, tu te portes forcément bien. Mais si tu te concentres sur ce qui va mal dans ta vie, tu seras toujours malheureux. Louer Dieu, c'est choisir ce sur quoi on veut concentrer son esprit. Et notre esprit ne peut pas faire deux choses à la fois. C'est comme l'objectif d'une caméra ou d'un appareil photo. Nous ne pouvons pas faire le zoom sur une personne à gauche et que l'appareil photo voit en même temps la personne qui est à droite. Quand tu te concentres sur quelqu'un avec ton appareil photo, tu ne vois plus rien d'autre que cette personne. Et si tu te concentres régulièrement ou longtemps sur cette personne, tu finiras même pas à oublier que en dehors de ce champ là il y a beaucoup d'autres choses qui étaient là. C'est pareil dans la vie de tous les jours. Si vous passez votre temps à faire le zoom sur les plus petits problèmes de votre vie, dès qu'il y a un bouton qui sort quelque part, dès qu'il y a une égratignure, dès qu'il y a une tâche, vous cassez tout votre temps à y penser. Cela vous rend malheureux, vous devenez triste, alors que vous êtes tout simplement, excusez-moi, stupide. Si vous passez votre temps à regarder ce qui ne va pas, vous n'allez pas aller bien vous-même. Les autres vont vous envier, mais vous vous plaindrez tout le temps. C'est pour ça que le prophète Jérémie dit, j'ai alors choisi de compter chaque matin les bénédictions de l'Éternel. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu as le choix. Tu peux te focaliser sur ce qui ne va pas et pourrir ta journée. Ou te focaliser sur ce qui va bien et avoir une journée de gloire et de bonheur. Il n'y a pas une seule personne au monde qui, s'il prend une feuille, liste bien ce qui va dessus dans sa vie et ce qui ne va pas, va trouver même 10% de choses dans la catégorie de ce qui ne va pas. Écoutez-moi bien. Mon message que je donne là n'est pas celui que j'avais prévu. Et quand ça se passe comme ça, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un ou à des personnes. Donc écoutez-moi bien. Si tu te sens là où tu es déprimé, si tu es malheureux, tu as l'impression que rien ne va bien dans ta vie, que tu n'avances pas, que ta vie est une impasse, qu'on dirait que Dieu t'a abandonné, ça veut forcément dire que tu es un ingrat, aveugle et stupide. Écoutez-moi bien. Je ne vous insulte pas, mais je vous explique. Quand tu te réveilles un jour et que tu as l'impression que tout va mal dans ta vie, c'est que tu es forcément l'esclave d'un esprit de mensonge, d'un esprit d'ingratitude. Tu as des yeux pour voir, mais tu ne vois pas. Si tu as l'impression que tu n'as rien, tu es un menteur. Et tu risques gros. Tu risques très très gros. La Bible nous dit ceci. À celui qui n'a rien, on prendra le peu qu'il a. Écoutez bien, c'est Dieu qui parle. C'est pas un homme injuste qui parle. À celui qui n'a rien, on prendra le peu qu'il a. Mais à celui qui a un peu, on en donnera encore plus. Cela paraît injuste, mais cela n'a rien d'injuste. C'est même très très logique que je vais vous l'expliquer. Si tu as l'impression que tu n'as rien, Dieu te prendra le peu que tu as. Mais si tu n'as rien, comment il fait pour te prendre quoi? Si Dieu peut te prendre quelque chose, alors quand tu dis que tu n'as rien, c'est soit que Dieu est menteur, soit que toi tu es menteur. Faisons le point. Tu dis que tu n'as rien. Faisons le point. Tu es là. Tu n'es pas handicapé. Tu as tes deux pieds. Tu sais le nombre de personnes qui se réveillent un matin, le pied ne bouge plus. Tu sais le nombre de personnes qui ont un petit bouton et puis ça grandit, on leur coupe un pied, on leur coupe deux pieds. Tu sais le nombre de personnes qui se sont levées hier pour faire une journée normale et qui ont eu des accidents, qui sont aujourd'hui morts ou qui sont couchés à l'hôpital. Quand tu t'es réveillé ce matin-là, c'est parce que tu as payé une facture à Dieu pour ça. Tu sais le nombre de personnes qui se couchent et qui ne se réveillent pas le lendemain matin?
Tu
Tu me vois au moment où je parle. Qu'est-ce que tu as payé pour ça? Tu sais qu'il y a des gens qui voient bien, subitement on dit glaucome, on dit cataracte et puis ils ne voient plus. Regardez tous les efforts que les hommes font pour créer des caméras et tout ça. Malgré tout, la caméra n'a pas la capacité que nos deux yeux. Soit qu'on ne lui mette de courant, soit qu'on ne le branche. Ce qu'ils sont capables de discerner comme nuance de couleur, même quand on veut mettre quelque chose sur ton œil là, ça se ferme automatiquement. Ce niveau de synchronisation et de puissance technologique là, tu as payé quoi pour l'avoir? Tu sais combien de fois par minute ton cœur bat et faire circuler ton sang dans tout ton corps? Un moteur que personne ne branche, on ne lui met pas de courant, il n'y a pas de pile, on ne le recharge pas. Tes petits téléphones là, quand ça travaille des états, c'est déchargé. Et Dieu a mis en toi quelque chose qu'on ne branche jamais, mais qui comme un moteur, comme un suppresseur, pompe en permanence ce sang, ça l'attire, ça le distribue, ça l'attire, ça le distribue. Tous les jours, que tu dormes ou pas, 70 fois par minute, ton cœur bat et te fait vivre. Toi, tu as fait quoi pour payer ça? Toute ta vie, ce petit moteur-là, que rien n'alimente, fonctionne sans arrêt. À l'instant où il ralentit, tu tombes, on dit hypotension, on dit hypertension, on dit palpitation. Il faut aller voir chez les cardiologues le nombre de personnes qui font la queue parce que ce moteur-là semble avoir un petit problème. Toi, tu n'as pas le brin de problème, c'est pour ça que tu es là. Et tu dis que tu n'as rien. Imagine que tu vas à l'hôpital. Va au département des dialysés. Ces gens qui n'ont plus de reins, on est obligé de passer leur sang dans la machine chaque jour pour nettoyer leur sang, sinon ils vont mourir. En plus et en général, c'est une maladie de riches. Mais quand tu vas les voir là-bas, demande-leur combien ils seraient prêts à te payer si tu es prêt à leur donner tes deux reins pour qu'ils ne soient plus obligés de faire la dialyse. Et tu vas entendre les montants qu'ils vont dire. Ça va te donner une idée de la valeur simplement d'un seul de tes reins. Va voir les grands brûlés. Et tu vas connaître la valeur de ta peau qui te protège du monde extérieur. Tu n'as besoin de rien, avec de l'eau tous les jours, c'est là, ça se régénère. Quand ça se blesse, ça se reconstruit tout seul. Regardez tout ce que notre peau fait sur notre corps. Tout ça là, c'est gratuit. Tes oreilles. Regarde tout ce qu'on doit dépenser en millions comme sonorisation pour pouvoir communiquer. Tu crois que ça va de soi de pouvoir entendre de tes deux oreilles? Moi, je connais des gens à un moment, ils ont commencé à avoir des vertiges. Dès qu'ils se lèvent, ils ont des vertiges, ils tombent. Pendant des années, ils ont eu ce problème, on ne savait pas pourquoi. Et un jour, un docteur a découvert en Côte d'Ivoire que c'est parce qu'une oreille entend un peu mieux que l'autre. Alors que Dieu a prévu que c'est l'équilibre du son des deux oreilles qui permet au corps de s'équilibrer. Donc imaginez la science de Dieu qui, par la précision de vos deux oreilles, équilibre le corps. Tu as tout ça là gratuitement. Tu ne le comprends même pas forcément. Et tu dis que tu n'as rien. Mais regardez par exemple l'effet de la parole de Dieu dans vos vies. Si vous n'aviez pas des oreilles, comment la parole de Dieu va agir dans votre vie? Quand quelqu'un est découragé, c'est ce qu'on lui dit par ses oreilles qui peut lui donner le moral et l'envie de vivre. Si à ce moment tu n'as pas des oreilles, tu vas faire comment? Si tu n'as pas d'oreilles, est-ce que quelqu'un peut te dire je t'aime? Si tu n'as pas des oreilles, quelqu'un peut te dire tu es belle? Quelqu'un peut te dire tu es fort, tu es beau, tu es brillant? Mais je suis en train de poser un problème sérieux. Imagine que c'est toi. Et tu fais tout ça là pour quelque chose. Ou pour quelqu'un. Tous les matins, tu te réveilles, tu fais ça pour quelqu'un. Quand tu manges, tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu sais tout ce qui se passe avec ton foie, avec ton estomac, avec tes intestins, jusqu'à ce que tu ailles aux toilettes. Il suffit que quelqu'un ait le diabète pour découvrir que manger et puis tout se passe bien là, ça n'allait pas de soi, c'est une grâce. Quand tu as une constipation pendant 3 jours, c'est là que tu découvres que tous les jours du travail, on ne savait pas. Demandez à ceux qui ont eu une hémorroïde une fois. Et ils vous raconteront que ce petit organe qui n'a l'air de rien, que tu appelles l'anus là, il est très très gentil. Le jour où il se fâche, tu vas connaître sa valeur. Quand tu te couches, tu t'endors, tu te réveilles le matin, tu es content. Demande aux gens, quand ça leur arrive, et pendant 3 jours, quelqu'un n'arrive pas à dormir. Il y a des gens au CNHU, parce qu'ils n'arrivent pas à dormir. Une semaine, il n'a pas dormi. Il demande la mort. Quand tu te couches, tu te réveilles là. Tu crois que c'est normal, ça va de soi.
Normal de ti.
Si Dieu te permet de ne pas dormir 3 jours, quand tu vas te réveiller chaque matin, tu ne vas pas arrêter de prier. Regardez quelque chose de simple comme le hockey. Il y a des gens qui sont hospitalisés à cause d'un hockey. Ils font tellement d'hockey que ils sont avachis en quelques heures. Mais regardez comment Dieu nous évite ces choses-là. Tu bois juste de l'eau, ça disparaît. Et on croit que c'est banal. N'attendez pas que Dieu vous montre ce que vous avez pour le savoir.
Bon, anusi misi kwato batu evo upe ma watu wa doa beto ti mo heku heku zon wa zon lo be ka o wi o iku be ku.
Tu es jeune, tu te réveilles, tu as la force, tu peux courir, tu es belle et tu crois que ça va toujours être comme ça. Faut demander aux gens qui ont un certain âge. Quand je vois mon fils Paul Emmanuel courir, il ne veut pas s'opposer, il ne veut pas dormir. Il ne sait pas la chance qu'il a d'avoir cette énergie. L'heure viendra où il va vouloir avoir le dixième de cette énergie-là, il ne trouvera pas. Tu as des parents, père et mère, frère et soeur, tu as un mari, même si tu te disputes avec lui, tu as quelqu'un. Et tu crois que tu te plains des gens qui sont autour de toi. Mais il y a des gens qui seraient prêts même à être à côté d'un fou qui les regarde et qui ne trouve pas. Et croyez-moi, ça torture beaucoup plus que d'avoir des gens invivables. Personne ne peut être heureux s'il n'est pas honnête dans la comptabilité de ce que Dieu lui a donné.
Mais debout, c'est où de vivre. Si vous jawa ni emastikuno beji le bo hanuda be mau ne mau wa zatomele.
Parce que chaque fois que quelqu'un demande à Dieu de le bénir, Dieu pose toujours cette question: qu'est-ce que tu as?
Wé debunu de mede bu hunu tomoro akuno tonumi de oko mi deme o tonanya de suno ton wé chenu ton akuno chere su titi oba de mi no ko de ne de wé no mau no ete kala lo tu titi a rewa bro tu nan dio.
Parce que Dieu bénit ce que nous faisons de nos mains. Il dit: je bénirai l'œuvre de tes mains. L'œuvre de tes mains, c'est ce que tu fais comme travail, mais c'est tout ce que ta main tient. Si tu donnes ta vie à Dieu avec tes mains, il bénira ta vie. Si tu donnes à Dieu tes forces de tes mains, il bénira tes forces. C'est pour ça qu'il dit à Gédéon: va avec la force que tu as. Nous passons notre temps à demander à Dieu de nous donner des choses. Dieu dit: qu'est-ce que tu as déjà, toi qui m'écoutes? Va avec ça. Ça suffit pour que je te fasse gagner. Mais si tu n'as rien, le peu que tu as, je te le prendrai. Et quand ça sera fini, tu sauras que tu avais quelque chose. Mais si tu peux repérer le peu que tu crois que je t'ai donné et que tu me le présentes et tu le sèmes, je vais le bénir, je vais le transformer et ça te donnera ce que tu veux. Tu ne peux jamais récolter avec Dieu si tu n'as pas semé. Dieu dit que qui ne sème pas ne récolte pas. Qui sème un peu récolte un peu. Qui sème beaucoup récolte beaucoup. Si tu dis que tu n'as rien, tu n'auras rien à semer. Si tu n'as rien à semer, tu ne récolteras rien dans la vie. Donc celui qui est ingrat, celui qui est aveugle et qui croit qu'il n'a rien ne va rien semer. S'il ne sème rien, il ne récoltera jamais rien. Mais celui qui voit ce qu'il a et qui présente ce qu'il a à Dieu et qui sème ce qu'il a à Dieu va récolter au centuple. Quand les gens sont venus voir Jésus, ils ont dit on doit nourrir des foules. C'est des milliers de personnes. On n'a rien à leur donner. C'est ça qu'ils ont dit. Il n'y a rien pour nourrir la foule. Jésus dit non. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Ils considèrent que deux pains et cinq poissons, c'est comme si on n'a rien quand il y a des milliers de personnes. Et donc, tant qu'on s'en attendait là, rien n'allait se passer. Pas parce que rien ne peut se passer, mais parce qu'ils ont cru qu'il n'y avait rien. Et Dieu n'a rien à leur donner. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez? Malgré eux, ils ont dit, bon, il y a quelque part deux pains et cinq poissons là. Qu'est-ce que Jésus dit? Donnez-moi ça. Quand Jésus le prend, qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. Avant de faire le miracle, il rend grâce. Père, je te dis merci. Ma main, qu'est-ce que tu nous as donné? Ce n'est pas rien. Je ne veux pas être ingrat. Je te remercie pour ça. Maintenant, mangeons. Le miracle était déjà fait. Le miracle, c'était de reconnaître qu'il y a, de l'accepter, de le remercier et de le laisser le multiplier. C'est de semer ce que Dieu nous a donné. Et quand ils ont partagé ce pain, tout le monde a mangé et il y a resté encore plus. Quand ils sont venus le voir, ils étaient à la fête. Il y avait plus de vin. On vient dire, maître, il n'y a plus de vin. On n'a plus de vin. Et on n'a pas d'argent pour acheter le vin. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que vous avez? Ils ont au moins de l'eau. On peut puiser de l'eau. Jésus dit, allez puiser de l'eau. Amenez-moi de l'eau. Quand ils ont amené de l'eau, Jésus rend grâce. Il dit, maintenant allez servir l'eau à votre maître. Il n'a rien fait. Ils ont semé de l'eau. Jésus en a fait du vin. Et le meilleur vin qui soit. Mais ils disent, non, on n'a rien. On parle de vin, tu nous parles d'eau. Nous, on n'a rien à donner là. Fais un miracle seulement. Jésus n'aurait pas fait de miracle. Quand on prend Pierre, il rencontre un film. Les films mendiants. Les films demandaient de l'argent. Il n'avait pas d'argent. Quand les gens vous posent un problème, quand vous n'avez pas l'argent pour régler un problème, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes ingrat. Vous êtes aveugle. Vous dites, je n'ai pas d'argent. Quelqu'un dit, je suis au chômage. Je ne connais personne qui veut recruter quelqu'un. Je suis malade. Bon, je ne peux rien faire pour toi. Ah, il faut qu'on m'évacue. Je n'ai pas d'argent pour te payer. Je dois voir mon enfant à l'école. Je n'ai pas d'argent pour t'aider. Aide-moi à acheter la fourniture. Je n'ai pas d'argent. Vous ne voyez pas ce que vous avez. Et là, vous dites que vous ne pouvez rien faire. Rien faire pour les autres. Rien faire pour vous-même. Mais Pierre nous apprend autre chose. Quelle a vu les films qui, parce qu'ils ne pouvaient pas bouger, étaient en train de mendier. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit, je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Qu'est-ce que Pierre vous dit là? Il dit, je n'ai pas d'argent. Mais j'ai de l'onction. J'ai un droit. J'ai une autorité. Jésus m'a donné une autorité. Il m'a donné une bouche pour prophétiser. Il m'a donné le pouvoir de commander aux malades pour qu'ils se lèvent et qu'ils marchent. Il m'a donné le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Il m'a donné le pouvoir de lier les choses et ce sera lié. De délier des choses et ce sera délié. De pardonner les péchés et ils seront pardonnés. De marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il m'a donné de libérer les captifs, de libérer les opprimés, de sortir aux gens du deuil. Ça, je l'ai. Toi, tu ne l'as pas. Toi, tu ne l'as pas. Jésus dira, méchant et paresseux serviteur. On a vu ça dans Luc 9. Une femme est venue se plaindre à Jésus. Maître, j'ai vu tes disciples. Mon enfant est malade. Ils n'ont rien pu faire pour lui. Jésus n'a pas dit, bon, les pauvres, c'est parce qu'ils ne sont pas forts, donc je vais faire. Jésus dit, c'est des méchants. C'est des paresseux. Pourquoi on les insulte? Parce qu'ils sont méchants de ne pas utiliser ce qu'ils ont pour bénir les gens. Ils sont pas ce manque de foi. De telle sorte que ce qu'ils ont, quand Jésus leur a donné pour sauver les gens, ils ne sont même pas capables de sauver les gens. On t'a dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui ont cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Toi, tu as cru. Combien de fois dans ta vie tu as posé les mains à qui? Quelqu'un peut être dans son couple. Es-tu le point de divorcer? Et tu lui parles. Tu lui donnes la parole de Dieu. Et tu redonnes une nouvelle vie à ce couple-là. Mais tu as un pouvoir. Pourquoi tu dis que tu n'as rien? Et tu te comportes comme quelqu'un qui n'a rien. Ça te coûte quoi de donner? Ça te coûte quoi de poser les mains à un malade? Tu ne veux rien faire pour personne. Même pas pour toi-même. Tu oublies que tu es prophète de ta propre vie. Quand tu es fatigué, tu dis je suis fatigué. Tu oublies que le pouvoir, que la vie et la mort sont pouvoir de l'ange. Tu fais comme si tu avais que la fatigue. Jésus va diguer. Jésus va diguer. Tu appelles la fatigue. Quand Dieu dit que la fatigue soit, la fatigue sera. Tu es un enfant de Dieu. Ta bouche est ointe. Ce que tu ouvres ta bouche pour dire s'accomplit. Quand tu dis je suis fatigué, tu seras fatigué. Tu dis je suis malade, tu seras malade. Tu dis je suis pauvre, tu seras pauvre. Sinon tu n'es pas un prophète. C'est pour ça que Dieu dit que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que Abraham dise je m'appelle Abraham. Un gars qui n'a pas d'enfant. Dieu dit désormais, quand on te demande comment tu t'appelles, tu as commencé pour t'appeler. Dis, je suis le père d'une multitude. Toi, tu veux être riche. Et tu dis, je suis pauvre. Si Dieu veut t'enrichir, il a dit désormais, quand on te demande comment tu t'appelles, dis, je suis milliardaire. Dis, je suis milliardaire. Mais c'est ça que Jésus a fait. C'est ça que Dieu a fait. Un gars est puissant qui à 100 ans n'a pas d'enfant. Dieu dit comment on t'appelle. Il dit je m'appelle Abraham. Il dit non, change-moi ce nom-là. Désormais, quand on va dire comment tu t'appelles, il dit je suis le père d'une multitude d'enfants. Toi, tu es pauvre. Selon toi, qu'est-ce que Dieu te dirait? Et désormais, il dit plus je suis le petit là. Moi, je suis un petit mécanicien, je suis un petit chauffeur, j'ai un petit atelier. Dieu ne veut pas entendre des niaiseries comme ça. Dieu dit, si tu veux que je te bénisse, il faut que tu changes de nom. Dis désormais, ah, je suis un enfant de Dieu. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis en parfaite santé. Je suis prospère à tous égards. Je suis loin. La gloire de Dieu est sur moi. La faveur de Dieu est sur moi. Je suis équipé par le Saint-Esprit pour lier les démons. Je suis un tueur de démons. Je suis un chasseur de démons. Je suis un serviteur de Dieu. J'ai le pouvoir de marcher sur les démons. Mais dis qui tu es. Confesse les vérités. Arrête de dire des bêtises. Non, Gandhi là, c'est pas ça qu'il disait. Il dit no ke no po. Celui qui est ke no po là, c'est normal qu'il tombe, non? Écoutez, quelqu'un comme ça, ke no po. Et après, vous dites, comment dit-on, 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 quoi? Regarde comme ça, il tombe, c'est normal, non? Tiens, dis-moi, no ke no po. Combien de temps, moi, tu as peur de quoi? Tu ne mourras pas. La Bible dit, je ne mourrai pas. Tu ne peux plus mourir. Tu as la vie éternelle. Même si un jour, ton corps là, tu n'es que poussière. Lui, tu es retourné à la poussière. Tu ne peux plus jamais mourir. Moi, je ne peux plus mourir. Je vis éternellement. Alors, de quoi tu as peur? Pourquoi?
Comment ça va? Et la journée, bon, non, action de grâce, mais là, ça veut dire quoi? Bon, non, pas dit d'eau. Mon ami, le fond, mais pas dit d'eau.
Vous devez savoir ce que vous avez.
Mais donnez tout, mon monsieur.
Et vous engagez avec ce que vous avez.
On a marqué, bon, nous allons tourner en cours.
Nous sommes en train de terminer, nous vraiment, grâce à Dieu.
Bon, mais donc, pas nous m'avons avoir.
Une période d'enseignement de presque 2 mois sur le thème de l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous avons démontré, le Seigneur nous a aidé, que l'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Et qu'en obéissant à Dieu, nous rentrons dans la bénédiction. Parce que Dieu a tout accompli. Mais nous devons rentrer dans la bénédiction. Nous devons nous connecter à la bénédiction. Cette connexion-là n'est possible que quand nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Je vous ai toujours dit ceci. Si tu remets ta voiture ou ta moto à un alcoolique, il va aller dans un bar forcément. Jésus nous dit que Satan ne vient prendre le contrôle de votre vie pour détruire, tuer, égorger.
Bon, Jésus dans nos milieux, nous les voyons, quoi qu'achète nous mettez six exemples. Et le mène, on a rien de bleu. Et le mène, on a roué. Et le corps a bon nous mène.
Si tu donnes le contrôle de ta vie à Satan en faisant ce que le monde fait, en péchant, faut savoir que tu as décidé que Satan te conduise dans l'enfer sur terre.
Mais les dazi, mais nos filles au point asie et gal asie. Et ben il doit être. Et il est gelé.
Si ça te plaît de mentir, ça te plaît de voler, ça te plaît de te prostituer, ça te plaît d'être jaloux, il faut faire, c'est des choses de Satan. Ça te conduit là où Satan conduit les gens, il n'y a pas de
musique. Ni est duro, oui. Bon, en attaque, besoin de faire ses défauts, pourquoi, d'accord, facture plus théo. A bien, en un mode, c'est TVT, d'où facture théo. Bon, besoin de faire, à Jack, il faut que tu aies maman tout. Voilà, voilà, papa Sahara. Bon, voilà, non, quoi de maman, à Jack, il faut que tu aies comme lui. À mon moment de boire, il m'a dit, il en a soué. Et besoin de toi, moi, tu le vois, à Jolon, à Zagon, bon, tu l'as dit, bah, vous faites avoir un bleu, les voix.
Il est impossible de faire ce que Satan dit de faire et d'aller au paradis parce que c'est comme si tu te mets ta voiture un buveur d'alcool et tu crois qu'il va prendre ça pour aller à l'église dimanche matin. Il va prendre ça pour aller prendre son
habit.
N'oubliez jamais que la seule manière d'être béni, c'est de remettre le volant de sa vie au Saint-Esprit. Et pour remettre le volant de sa vie au Saint-Esprit, il faut suivre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu.
Il Et
quand il vous conduit dans la paix, vous dans la joie, dans la sécurité, dans la santé. Ça veut dire que tu obéis à la parole de Dieu. Tout le temps dans ta vie, tu auras toujours le choix. Est-ce que tu fais ce que tu as envie de faire, ce que la chair te dit et ce que Satan te dit? Ou bien est-ce que tu fais ce que la parole te dit? C'est ce qui déterminera ta vie. Dieu nous aime, il nous aimera toujours. Quel que soit tes péchés, Dieu t'aimera. Mais il a beau t'aimer, il ne peut pas t'empêcher d'aller là où tu vas. Je peux aimer mes enfants. Mais si ma fille, alors que je lui dis de ne pas courir les garçons à 10 ans, va se faire engorcer à 10 ans, je ne peux pas l'empêcher de tomber enceinte. C'est pareil avec Dieu. Si tu veux être heureuse ou heureux, tu n'as pas le choix que d'obéir à Dieu. Et quand tu es en train d'obéir à Dieu, tu ne pries même pas beaucoup. La bénédiction te poursuit. Ça, c'est ce que nous avons vu. Bien entendu, toute l'année, nous y reviendrons, mais nous terminons cette période-là. Nous rentrons dans une nouvelle phase, nous allons enseigner l'engagement au service de Dieu. Comment nous pouvons nous appuyer sur notre communion avec le Saint-Esprit et la prière pour nous engager avec Dieu? Vous devez savoir une chose. Aucun homme n'existe pour exister. Quand un enfant naît, il ne naît pas parce qu'il fallait qu'il naisse. Si tu ne sers à rien au monde monde ne s'occupera pas de toi. Si tu ne sers à rien à Dieu, Dieu ne s'occupera pas de toi. Tu crois que les gens ont des bébés parce qu'il faut avoir des bébés? La preuve, il y a plein de femmes aujourd'hui dans le monde qui, avec les émancipations, les sciences, là, ne veulent plus d'enfants parce que ça ne leur sert à rien par rapport aux gens de vie qui veulent vivre. Parce qu'ils voient les enfants comme un fardeau, comme un encombrement, comme quelque chose qui les empêchera de se prostituer. Donc, il y a plein de femmes qui ne veulent plus avoir d'enfants. Mais quand dans une famille normale, les gens veulent avoir des bébés et qu'ils nourrissent leur bébé, ils souffrent pour avoir le bébé, tout ça, c'est parce que le bébé procure une joie. Si le bébé n'apportait pas une joie à la famille, personne n'en voudra. Demandez à ceux qui n'ont pas d'enfants, ils vont vous dire le prix qu'ils sont prêts à payer pour avoir un enfant. Pourquoi? L'enfant, même s'il n'a pas la force, en tant que bébé, il apporte une joie. Et c'est cette joie-là qui fait que nous lui donnons tout ce que nous lui donnons. Et à cet âge-là, on n'attend pas des choses compliquées de l'enfant, mais sa seule existence, sa faiblesse, la manière dont il titube, dont il tombe, sa fragilité, sont des choses qui donnent la joie à ses parents.
Mais
Et pendant ce temps, on investit beaucoup en amour, en temps, en argent, dans la croissance de l'enfant. Et plus il grandit, plus il devient un peu plus autonome. Et là, le type d'investissement qu'on fait en lui change. On commence à le mettre à l'école, on l'éduque, on lui apprend des choses. Mais tout ça, c'est pour qu'il devienne rapidement adulte. Et quand il devient adulte, on ne veut pas qu'il soit à la maison jusqu'à sa mort. On veut qu'il aille se marier. On veut qu'il ait aussi des enfants. On veut qu'il fasse des choses. Qu'il devienne un grand docteur pour guérir des gens. Qu'il devienne un grand enseignant pour enseigner des gens. Qu'il devienne un grand ingénieur pour construire des choses. Et plus il grandit, moins on s'occupe de lui. Et plus lui, c'est maintenant lui qui s'occupe de nous. Et l'enfant commence maintenant à être celui qui investit dans la vie de ses parents, mais que ses parents décroissent. Et à un certain âge, c'est les parents qui en sont au point de ne plus rien pouvoir faire. Ils ne vivent que parce que leurs enfants sont là et font des choses pour eux. Vous êtes d'accord avec moi? Un enfant qui serait un bébé et qui têterait toute sa vie, ça ne se comprendrait pas. Alors, ce qu'un homme et une femme normale ne peuvent pas accepter de leurs enfants, Dieu ne peut pas l'accepter de ses enfants. Quand tu nais de nouveau dans le royaume de Dieu, c'est normal, tu es un bébé, on t'enseigne, on prie pour toi, on te fait tout. Mais Dieu n'a pas l'intention que tu sois un bébé au lait pendant toute ta vie. Tu vas devoir suivre le processus d'un enfant. Tu vas devoir grandir, il va t'aider, il va te guider, il va t'envoyer à l'école, il va t'enseigner. Mais il y a un moment où il faut sortir de la maison et aller faire quelque chose pour tes parents. Avant même qu'il ne soit adulte, déjà à partir de 5 ans, je me dis, Paul Emmanuel va me chercher ce sac-là, va me chercher ce truc-là. On commence déjà à l'utiliser pour des petites choses dans la maison. Et plus il grandit, on peut l'amener à la cuisine, lave-moi ci, fais-moi ci. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, le parent doit être en train de l'utiliser. Vous êtes dans l'église, vous mangez la parole de Dieu, vous avez dépassé le lait spirituel, vous mangez la nourriture solide. On ne peut pas vous confier d'aller chercher même une casserole à la cuisine ou une cuillère pour qu'on mange. Vous ne servez à rien à Dieu. Vous imaginez une maison dans laquelle un enfant mange tous les jours, on s'occupe de lui, quand il est malade, on le soigne, on l'envoie à l'école, on fait tout pour lui. Il ne peut même pas nettoyer une chaise pour les gens. Voilà le genre de chrétien qu'il y a dans l'église aujourd'hui.
Si tu es là, tu es là.
Si c'est un enfant normal, il va même te offrir ça. Moi, par exemple, mon fils, à 1 an, 2 ans, il est tout le temps chez toi. Mais à un moment, quand tu demandes d'aller chez toi, il dit non, non, il veut aller jouer. Un enfant normal n'accepte même plus de rester dans la chambre comme un bébé à un certain moment. Il n'y a que dans les critères qu'on voit des gens qui grandissent, qui poussent et qui se comportent comme des bébés au bercé tout le temps. On ne va pas rentrer dans les détails de ça. Nous rentrons dans une période de 1, 2, peut-être 3 mois où nous allons travailler avec le Saint-Esprit sur l'engagement du chrétien au service de Dieu.
Et ça, c'est des que nous sommes en train de dire. Les miroirs ne pas de bien et dire sous un ou le sous un ton. Et bien, c'est noté. Le bonheur, ben nous prenons mes dos.
Il ne faut pas être des chagrins pour Dieu. Tu imagines ton enfant avoir 5 ans et il n'accepte pas de sortir de son berceau, il passe toute sa journée dans le berceau. Est-ce que les parents vont pas aller à l'hôpital en ayant peur? Mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore dans les berceaux de Dieu. Ils sont dans les berceaux de l'église, ils ne sont bons à rien. Ils sont là comme des bébés. Méditez sur cela. Et demandez au Saint-Esprit. Nous attendons la semaine de Pentecôte. Priez beaucoup avec le Seigneur. Demandez-lui de vous aider. De vous donner de vouloir et de pouvoir. Vous engager. D'avoir une croissance normale. De grandir comme un enfant normal. Un enfant n'est pas un bébé. On ne peut pas venir s'asseoir tous les dimanches écouter Dieu rentrer dans la semaine comme si de rien n'était. Vous n'êtes pas des Mongols, vous n'êtes pas des nés. Les chrétiens sont des Mongols spirituels. Vous n'êtes pas des nés qui grandissent tout en restant au sol. Mais ayez la vie normale d'un enfant. Surtout si vous êtes un enfant de Dieu. Vraiment que chacun de vous vive comme un enfant de Dieu, grandisse comme un enfant de Dieu, porte les fruits d'un enfant de Dieu. Le monde n'a besoin de rien d'autre que de chacun de vous. Il a besoin de ce que toi tu peux faire. Même si je n'ai pas beaucoup, fais-le. Selon ton âge, fais ce que tu peux faire à ton âge. Quand tu vas grandir un peu, tu feras plus. Mais tu ne peux pas ne jamais rien faire. Je vous en prie. Soyez très assidus dans la période qui vient. Afin d'apprendre à vous engager dans la vie avec Dieu. Parce que votre bénédiction et votre santé spirituelle, matérielle et consort dépend aussi de ce que vous faites. Imaginez un enfant de 18 ans qui ne sort jamais de la maison de son papa. Vous pensez qu'il va avoir quel genre de vie? Il va être malade mental, non? Mais il y a des chrétiens qui, après 18 ans de vie chrétienne, n'ont jamais rien fait pour Dieu. Ils sont là, ils s'asseyent seulement.
Tu vois qu'à ce site, il y a un point à bas et tout le site, il y a un point à bousser.
Nous allons vaincre ça au nom de Jésus
cette
et chacun de vous sera un géant de la foi.
Amen.
Et à mesure que vous serez des géants de la foi, vous allez avoir de géantes provisions pour vivre la vie de Dieu.
Donc,
réveillez-vous et levez-vous. Engagez-vous dans une vraie vie de chrétien. Parce que Dieu vous suit. Si vous ne bougez pas, il ne bougera pas. Si vous avez de grands combats, il vous donnera de grands moyens. Mais personne ne donne de grandes provisions à quelqu'un qui est dans le berceau, il va faire quoi avec? Que Dieu vous bénisse.
Vous venez de suivre Lève-toi et prie, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, 6 à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'Amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny. Diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourreussir.org ou nous appeler au 229 61 44 44 44. Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h. Nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu. La meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Dieu vous bénisse.